Amis de Radio Silence, bonjour. J'avais prévu de vous parler de l'Afrique du Sud, de la célébration des 20 ans de sortie de prison de Nelson Mandela. C'était très important pour l'Afrique du Sud, cette année, parce que vous savez, dans la tradition britannique, chaque année, il y a un discours du président de la République sur l'état de la nation. Ils appellent ça comme ça. Et Jacob Zuma a fait coïncider ce discours cette année, le 11 février, c'est-à-dire avec la date de sortie de prison du président Nelson Mandela. C'est vrai que c'était très symbolique de le faire comme ça, et ça donnait lieu à de très très grandes une grande manifestation dont on parlera la prochaine fois, parce que ce discours était vraiment très très intéressant. Cette fois-ci, je vais parler du Niger parce que les événements sont assez graves et assez importants. Il y a un coup d'État qui a eu lieu le 18 de ce mois. Et bon, il y a deux thèses, hein. Il y a ceux qui, comme d'habitude, considèrent qu'un coup d'État n'est jamais tolérable et que ce devrait être la dernière fois que ce genre de choses se produit. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent que oui, mais quand même, face à ces dictateurs africains qui ne veulent jamais, enfin qui s'agrippent au pouvoir, vous avez vu ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, où le président Laurent Gbagbo, dont le mandat est théoriquement terminé depuis 2005 et qui a bénéficié comme ça d'un certain nombre de facteurs extérieurs dus à une instabilité chronique, et qui a quand même eu 4 années de bonus, voire 5, et qui veut quand même, malgré cela, continuer à rester au pouvoir en dissolvant le Parlement, en dissolvant le gouvernement, etc., etc. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, ça défile tous les jours. Et le Premier ministre, Georges Soros, Guillaume, pas Georges, le Georges c'est le financier, Guillaume Soros doit annoncer un nouveau gouvernement assez rapidement, dans les heures qui suivent, suite à la médiation de Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, qui lui aussi n'est jamais très loin des problèmes de la Côte d'Ivoire. Bon, donc le cas du Niger n'est pas isolé. Le cas du Niger, où un président veut rester au pouvoir parce qu'il a changé la constitution, n'est pas isolé. Le Cameroun l'a fait, d'autres pays l'ont fait aussi. Mamadou Tandja, le président qui a été déposé de 18 par la junte, savait très bien, lorsqu'il a été élu en 1999, à la suite du troisième changement de la constitution du Niger, que la constitution prévoyait deux mandats de 5 ans chacun, la nomination d'un premier ministre, et tout cela était parfaitement clair. Donc, quand il est élu en décembre, je crois, 1999, la constitution a été acté en juillet 99, donc il le savait très bien. Au bout de 10 ans, c'est-à-dire arrivé l'an dernier, le président Mamadou Tandja a voulu passer en force en initiant un référendum dit plus ou moins constitutionnel, pour donc poser deux questions. Demander que le mandat du président soit illimité et demander le passage d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Or, ce point avait déjà été, par le passé, c'était cela, et la Constitution de 1999 revenait d'ailleurs sur ce point, en insistant sur le régime semi-présidentiel avec un premier ministre. Donc Mamadou Tandja s'orientait vers le pouvoir absolu, hein, plus de premier ministre, et mandat illimité. Avec l'opposition, c'est vrai que tout cela a commencé depuis août 2009. L'opposition n'a pas vraiment réagi, l'armée non plus. Il semblerait que cela aurait pu donner lieu à des accords plus ou moins secrets qui ont probablement et certainement avorté. Donc le 18, on arrive à ce clash et il y a le coup d'État. Bon, il y a le coup d'État, qu'est-ce qu'on va dire? On va rien dire. Certains disent même que c'est un mal nécessaire. Qu'est-ce qu'on condamne? On condamne la mort, encore que là, le président n'a pas été tué. Il est mis aux arrêts, si vous voulez, dans une caserne militaire où il attend, voilà, les décisions qui vont être prises. Dimanche, donc, une délégation de médiateurs composée des membres de l'ONU, des membres de l'Union africaine, et des membres de la communauté de l'Ouest africaine. Ça a rencontré la junte militaire qui assure la transition et qui apparemment promet que tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Bon, on va croire. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on croit cela, soit on a le dictateur à vie. On a même eu des cas, vous avez comme au Togo, comme en RDC, où la dictature continue et le président meurt et c'est le fils qui prend la relève sans aucune expérience. Le cas du Gabon est quand même assez différent parce que Ali Bongo, moi j'ai été au Cameroun hein, quand il y avait la campagne du Gabon et le Gabon c'est juste à côté. Donc c'est une campagne que j'ai suivie de très près. Il a tout simplement bénéficié du fait que l'opposition gabonaise n'a pas pu se mettre d'accord autour d'un nom. Elle s'est présentée en, comment dire, en rang dispersé, donc fatalement il devait gagner. Donc Ali Bongo, c'est quand même un cas à part. Bon, ceci étant, il y a un autre problème avec le Niger. Un autre problème, c'est l'uranium. Le Niger est théoriquement, d'ici 2020, il est prévu, le Niger sera le deuxième plus grand producteur d'uranium au monde, derrière le site de MacArthur River. Donc, le site du Niger, Imouraren, a fait l'objet en mars dernier d'un contrat entre le groupe français Areva, donc présidé par Madame Anne Lauvergeon, qui a signé un contrat qui prévoit que Areva va donc exploiter cette mine pendant, ça fait 40 ans, hein, Areva est au Niger, et enfin Areva, la France, c'est la même chose. Et donc il y a là toute une, comment dirais-je, tout un point de géopolitique très important pour beaucoup de personnes. Alors la Chine est venue. A sollicité aussi un certain nombre de contrats et des mines qu'elle exploite. Les Américains arrivent, ils sont arrivés à l'occasion de ce coup d'État. D'ailleurs, on s'est posé la question de la rapidité de leur présence, qui ne doit pas étonner parce que l'Iran y était déjà. L'Iran a des relations assez importantes avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ce Niger et le Burkina Faso dont on a parlé tout à l'heure. Le programme militaire nucléaire iranien inquiète tellement et les Français et les Chinois et les Américains et tout le beau monde du Conseil de sécurité de l'ONU que le Niger devient à ce moment-là vraiment un lieu extrêmement stratégique et extrêmement sensible. Donc voilà, il y a aussi avec le Niger quelque chose qui dépasse le Niger hein, complètement. Pourtant, le Niger est comme Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde, avec une richesse comme celle-ci. Il faut savoir que 50% de l'uranium qui est nécessaire à l'activité des centrales nucléaires françaises provient du Niger. Et il faut savoir aussi que le Niger, c'est un pays très très pauvre, comme j'ai dit. Les richesses sont mal distribuées. C'est la principale richesse quand même qui rapporte 80% de recettes étrangères au Niger. Et si le Niger ne s'en sort pas avec son uranium, ben on voit pas vraiment comment il fera, parce qu'après ça, ils ont quoi comme richesse? Il y a le charbon, bon ça tout le monde en produit, il y a le pétrole, l'Angola va certainement passer devant tout le monde, il y a le Nigeria, les pays du pétrole, donc ça va pas être impressionnant. Il y a le fer, bon ça aussi on en trouve un peu partout. Donc vraiment la spécificité et la richesse du Niger, c'est son uranium. Mais peut-être que ça va aussi être son malheur. Et je vous dis à bientôt.